Donc, je m'appelle Jean Meillet, Ebnoïgacler. J'ai 82 ans et demi, bientôt 83. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à la mine, mais avec des études bien particulières, puisque j'ai entré à la mine, j'avais 14 ans et demi, 15 ans moins trop moins exactement, en 1939. Et en 1939, en 1941, les houillères, qui n'étaient pas nationalisées à l'époque, elles ont été nationalisées en 1946, les houillères. Hein. Donc c'était des compagnies privées, je ne fais pas partie de celle-ci, je fais partie de la bataloudière. Et le groupement des compagnies de l'époque a créé des cours d'électromécanicien du fond en 1941 au lycée Fauriel, d'ailleurs. Enfin, à l'école, c'était National Professionnel, comme il y a encore, c'est encore écrit, c'est l'école nationale professionnelle de Saint-Étienne. Donc j'ai fait 2 ans, 4 heures à la mine, 5 heures à 9 heures, et de 14 heures à 18 heures au lycée, pour faire le métier d'électromécanicien, 2 ans. Puis j'ai continué ensuite à travailler 4 heures, et les ingénieurs de l'époque, avec des cours par correspondance, j'ai préparé l'école des mines, où je suis rentré à l'école des mines de Douai en 1947. Sortant de là, après, j'ai travaillé en Lorraine. Je me suis occupé de démarrer l'électrification du fond des mines de Lorraine. Puis je suis revenu dans la Loire en 1951, où je me suis occupé de l'électromécanique, puis ensuite de l'exploitation depuis de 1960. Alors j'ai été nommé ingénieur, parce qu'on n'était pas directement. J'ai été nommé ingénieur en 1962. Et j'avais d'abord fait toutes les hiérarchies ouvrières, toutes les hiérarchies maîtrises, et ensuite toutes les hiérarchies ingénieurs, depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Donc c'est moi qui ai terminé, qui était à l'époque, j'étais seulement adjoint au chef de siège, qui a fermé le courrier en 1973, puis le Pigeot, dont j'étais le patron à l'époque, en 1983, à faire les Pigeons en 83. Donc j'ai fait l'exploitation de 62 à 83. Puis l'ingénieur de quartier jusqu'à l'état adjoint au directeur de l'époque. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait beaucoup d'électromécanique et beaucoup d'exploitation après. Ce qui n'était pas normal, puisque je sortais d'une école des mines, donc il fallait faire de l'exploitation. Voilà.
D'accord.
Ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors, pourquoi êtes-vous devenu mineur? Alors, pourquoi je suis devenu mineur? Effectivement, rien ne prédestinait au moins à faire autre chose, parce que mon grand-père était mineur, mon père était mineur, mon frère était mineur. Et la décision entre à la mine à l'époque, tout ça. Hein. Donc, quand j'ai eu. Malheureusement, j'avais des copains d'école qui, eux, allaient à la prof. J'étais à la prof à l'époque. Mes parents, mon père n'a pas voulu, pensant que j'irais à la mine. Et effectivement, je suis allé à la mine à 14 ans et demi. On ne rentrait pas avant. Et j'ai fait toute ma carrière, comme je vous l'ai dit. Alors, quel poste avez-vous occupé? Ben, tous. Tous les postes, en fait, tout ce qui s'est fait au fond, au jour d'abord, parce que je suis rentré le jour pour trier les pierres, on appelle ça le clapeur, les clapeuses, moi qui n'y a pas de clapeuse, il y a des clapeurs, pour trier les pierres, ensuite je suis allé au fond, en 40 au fond, j'ai débuté au fond 40, donc, je rentre à la mine le 9 décembre 1939, et je suis allé au fond le 20 décembre 1940. Au fond, j'ai accroché les berlines, et après j'ai fait tous les travaux, parce que pour rentrer à l'école des mines, il fallait faire beaucoup de fait, il y avait une taille école à l'époque, il fallait apprendre à piquer, à boiser, à faire à tout. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la mécanique, comme j'étais électromécanicien, j'ai fait de la mécanique jusqu'à je suis rentré à l'école des mines. C'est pour ça que la Lorraine m'a embauché après pour faire de l'électromécanique. Ça n'existait pas, parce qu'il faut bien dire que jusqu'à les années 1960 à peu près, la mine faisait le service mécanique, surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité au fond. Il y en avait aussi dans les grandes galeries où il y avait des trolleys, mais on ne savait pas utiliser l'électricité dans les quartiers résoutes.
C'était exclusivement avec les lampes à huile
les lampes à huile, mais il y avait des lampes électriques, mais on ne savait pas utiliser le courant sur les engins, parce qu'on ne savait pas enfermer un contacteur dans un coffret pour qu'on puisse fonctionner un peu sa grilloteuse, un contacteur, un interrupteur, produit des étincelles, donc on ne savait pas faire. Et ça, ce sont les Américains qui l'ont amené en 1947 à la libération. Donc jusque-là, dans les mines grisouteuses, je dis bien grisouteuses, c'est dans les mines il n'y avait pas de grisou, on pouvait faire ce qu'on voulait. Dans les mines grisouteuses, on ne pouvait pas utiliser de matière électrique. Alors donc, tout au début, et beaucoup plus tard, tard, il y avait un chef mécanicien. Quand on a commencé l'électricité, on a mis un chef électricien. Et j'ai été, moi, le premier, en tant qu'élève de maîtrise, être, en revenant de Lorraine, être le chef électromécanicien. J'ai été formé pour ça. Il n'y avait pas d'eau dans le bassin. Et jusqu'en des années... J'ai été muté après à Roche-la-Molière en 1958, justement pour créer la compagnie qui était à Roche-la-Molière, qui était en 48, qui était une entreprise nationalisée, pour faire de l'électromécanique et remplacer un chef mécanicien et un chef électricien. Donc j'ai fait l'électromécanique et depuis, un peu partout, j'ai participé moi, à la formation, tout au moins aux examens d'électromécaniciens qui étaient formés pour faire l'électromécanique. Bon, je déraille un peu de votre question peut-être. Hein. Bon, la première fois que j'ai descendu au fond, mais j'étais pas encore à la mine, j'étais avec mon père, j'avais 12 ans. Mon père nous a emmené un jour au fond. Et pourquoi j'avais 12 ans, on venait de mettre en service Couriot en plus moderne, et à l'atelier, ceux qui connaissent l'atelier, on n'avait plus que ça s'appelait plus la croix, avec des machines électriques modernes. Et mon père nous avait fait descendre plus la croix, l'atelier. C'est un moment de fond, pour visiter cette nouvelle installation, ainsi de suite. Donc j'avais 12 ans. Y avait-il une sorte de rituel avant la descente? Alors, j'en reviens maintenant au rituel quand on descend pour travailler. Ben, il y avait un rituel, oui, parce qu'il y avait d'abord la réglementation. À partir de la mine, il y avait une réglementation très très sévère. Il fallait. Alors, vous avez visité le musée? Ah, on l'a peut-être raconté déjà. Enfin, en arrivant, je le reprends quand même, en arrivant dans la lampisterie, mineur d'abord, elle a la salle dépendue, se mettant en travail. Ensuite, il allait à l'impisterie. À l'entrée de l'impisterie, on lui donnait un jeton. Vous avez dû voir ça. Un jeton carré, rond ou triangulaire, c'était lui. Avec ce jeton, il prenait sa lampe. Je dis la dernière méthode, je ne remonte pas dans le passé. Mais il prenait sa lampe, il se dirigeait à ce moment-là au puits, à la recette. À la recette du puits, en général, ceux qui descendaient les premiers, c'était les gens qui faisaient l'abattage, les postes les plus nobles, les piqueurs. Alors, on donnait son jeton à l'entrée dans la cage à quelqu'un qui l'enfilait sur une tringle, hein, dans l'ordre où il descendait, et puis on descendait au fond, travailler. Et je vais finir à la remontée, on tournait la tringle, et celui qui était descendu le premier remontait le premier. Alors donc, c'était comme ça. Oui, et remontait le premier. En remontant, on remettait à la pisterie sa lampe à sa place, puisque c'était du self-service, la lampe à sa place, et puis on suspendait en dessous le jeton, ce qui permettait aux lampistes de vérifier tout le monde qui venait remonter. Petite anecdote là-dessus, pourquoi c'était si sévère, ça avait toujours été, mais en 1950, il y a un jour, une dame qui vient un matin, là, et qui dit, mon mari, c'est lui qui fait la bringue, puis en sortant le soir, mais il n'est pas rentré. Effectivement, le mari n'était pas rentré, et elle est allée voir au fond, il était sur un éboulement. Ça montrait que le contrôle de la remonte n'était pas fait ou mal fait. On n'est pas exactement rendu compte de ça. Et puis, ça a été très, très, très sévère. Et alors, elle a remonté, comme je viens de dire, il y avait un préposé qui s'appelait le lampiste qui contrôlait qu'il y avait bien la lampe et le jeton, les deux. Sinon, il allait voir l'agent de maîtrise qui était dans son bureau à côté en lui disant, tiens, tel n'est pas remonté. Alors, l'agent de maîtrise, quelquefois, il dit, écoute, excuse-moi, j'ai oublié de te dire qu'il était resté pour un travail supplémentaire. Ou quelquefois, moi, je n'ai jamais vu qu'il n'était pas remonté parce qu'il y avait un accident. Enfin, ça arrivait. Hein. Alors, donc, il descendait. Comme ça, voilà la descente. Ensuite, les gens allaient dans le chantier. Dans les dernières années, ça fait toujours partie du rituel. Avant de descendre, il passait devant il y avait un bureau où étaient installés tous les agents de maîtrise. Et il savait que l'ouvrier savait qu'il avait affaire à tel agent de maîtrise. Il se présentait devant lui. L'agent de maîtrise cochait comme quoi il était présent. Et il lui disait où il allait travailler. Puisqu'il se prenait qu'il ait changé de chantier. Il disait aujourd'hui tu vas être en moi, tu vas remplacer un tel qui pique. Bon, puis il allait au fond. Il emportait, donc je lui ai dit. Il emmenait son jeton qu'il donnait. Après, donc, quand il revenait, avoir quitté tout ça, on a fini avec le jour, il allait à la salle des pendus, on vous a expliqué le rituel de la salle des pendus, comme ça se passait. Le matin, quand il arrivait en lieu de ville, il descendait sa chaîne, où il y avait son panier, il se changeait, il se transmettait le travail, il remettait à la place de la ville, et puis il partait donc à l'amphistrie. Bon, tout les inverses, ils descendaient dans son panier, ils déshabillaient les affaires sales par terre, ou sur le banc de la lampisterie, et il allait ensuite prendre sa douche, il se réhabillait avec ses affaires sales et partait. Voilà le rituel de la descente. Dans la descente, j'ai expliqué, donc il n'y avait pas d'autre chose, si ce n'est que s'il avait des bottes, il n'a pas vu ça, on ne le voit pas. S'il a des bottes, il passait vers un appareil, il tient ses bottes dessous, il appuyait sur une pédale, et ça mettait du talc dans ses bottes. C'est des anecdotes un peu. Bon, quels étaient les ordres de travail? Alors moi j'ai travaillé à tous les postes, en particulier quand j'étais à la prof. Je rentrais chez moi par le quart de 7 heures, je dormais un moment, à ce moment-là j'ai travaillé de nuit, je repartais travailler. Ma mère me rappelait pour travailler, pour aller travailler à 10 heures du soir, je travaillais 10 heures pendant la guerre en particulier, de 10 heures à 4 heures du matin, à 2 heures du matin.
Quand vous étiez jeune alors?
Ah, j'avais 15 ans à l'époque, 16 ans. D'abord quand j'ai commencé à travailler, pour vous dire un peu, la dureté, ce qui était dur, c'était de trier des pièces, c'était pas tellement dur. Mais on commençait 5 heures le matin, de 5 heures à 13 heures, et de 13 heures à 21 heures. Et quand ma mère venait m'appeler à 4 heures et quart, 4 heures et demie, parce qu'elle travaillait à vélo à l'époque, c'était dur de se lever, 95 ans. Bon, les heures de travail, donc, c'est 14 heures, 6 heures, 14 heures, 14 heures, 22 heures, 22 heures, 6 heures, 3 postes. Hein. Donc, en général, certains... Nous, enfin moi en tant que patron après, on ne tenait pas bien ce que les gens tournent. Beaucoup ne l'aimaient pas non plus parce que si c'était habitué à un poste, changer de poste chaque semaine, c'était pas intéressant. Quand j'étais à trier les pires, on changeait toutes les semaines. Donc là, les gens restaient en général à leur poste. J'ai toujours le souvenir d'un de mes agents de maîtrise qui avait travaillé toute sa vie au poste 3. Il y a des gens qui avaient le poste 3, il y a moins de bruit, moins de poussière, moins difficile. Là, j'avais l'ingénieur au poste 3, j'étais tranquille. Et quand il a fallu, avec la récession, on a supprimé le poste 3, et quand il a fallu le changer de poste, puis il en était malade, il a très qu'il s'allait au poste 3. Bon, avez-vous connu des accidents qui ont été amenés? Oui, j'avais connu beaucoup de petits accidents, pas importants, mais j'en ai connu un, j'ai connu, j'y étais surtout comme sauteur, à l'accident du Puchard en mai 68. Il y a eu un coup de grisou au Puchard, il y a eu un coup de poussière et il y a eu 6 morts. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais avec un mari au Pipigeot, et l'ingénieur en chef, je disais que l'ingénieur venait me voir, mais il faut que ça pas me dire, venez avec moi, on va descendre au Puchard pour aller voir l'accident. On a vu effectivement les gens qui étaient là, ils n'avaient pas pu aller avant, tellement la chaleur était importante, et elle a été, les sauteurs qui étaient là, ramasser les gens qui étaient cuits. C'est le cas de moi, ils étaient cuits, ils n'avaient pas touché, parce que la peau s'en allait. Et donc voilà l'accident le plus typique, c'est le dernier accident important. Le dernier que j'ai eu en tant que responsable, c'est au Pupigeot. On a fermé, donc on a arrêté la production en octobre 83, ça c'était en août 83. Un gars qui, au fond, il était tout seul à la salle du puits. Entre les berlines, il n'y avait pas un grand espace, il y avait ça. Il est passé, on ne sait pas comment, il a été surpris par l'arrivée d'une berline, et il a été roulé, il a eu un hémorragie interne, et voilà, c'est le dernier, en août 83. Les accidents, voilà les accidents. Quel est le moment de la journée que vous préfériez lorsque vous étiez à la mine? Ben, le moment préféré, c'était le casse-croûte. Vous avez dû voir au fond les autour. C'était le moment agréable parce qu'on discutait. Et surtout que, j'ajouterais que pendant la guerre, on rencontrait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la mine, beaucoup d'étudiants en particulier, pour pas partir en Allemagne, ils venaient travailler à la mine. Parce que ça sortait un peu de l'ordinaire, comme ça faisait l'occasion de discuter avec eux, donc c'était le moment le plus agréable.
Mais nous aussi, on nous a parlé de la douche, qui était un moment assez...
Alors ça, c'est au jour, effectivement, la douche était un moment... parce que vous avez vu la lignée de douche, tous les gens étaient là, et c'est un moment où ça chahutait. Si vous avez rencontré un mineur qui vient bien beaucoup, là, il dit, raconte lui qu'un jour, il avait remonté de la mine un rat, il avait lâché le rat au milieu, là. Et ça, tout le monde se lavait le dos à la fin de la vienne, hein, le dos du premier, ainsi de suite, tout à fil, alors les gens se mettaient en fil pour se laver le dos, c'est le seul endroit qu'on peut difficilement atteindre. Votre salaire permet-il de vivre décemment? Oui, enfin, jusqu'à ce que je rentre à l'école des mines, je vivais chez mes parents, donc il n'y avait pas de problème. Puis ensuite, j'ai entendu que les mines, un salaire correct, je me suis marié d'ailleurs. Je suis revenu de Lorraine en 51, je me marie en 52. Donc, oui, même en tant qu'ouvrier, le salaire permettait de vivre. Les mineurs étaient quand même les mineurs de fond. Je parle bien, parce qu'entre le mineur de fond et le mineur du jour, il y a 18% d'écart dans le salaire. Hein, le du fond. Et ça a eu un autre avantage pendant la guerre, parce qu'on avait, puisque j'étais, dès 1940, j'étais au fond, on avait ce qu'on appelait des tickets de travailleurs de force, ce qui doublait presque la ration qu'on avait pendant pour les gens qui étaient à l'extérieur. Donc pour vivre, donc, existaient des syndicats, bien sûr, qu'il y en avait, mais à l'époque, il n'y avait pas bien le choix. Je vous rappelle que le délégué mineur en particulier, qui était représentant syndical, n'était pas. Dans la guerre, tout le monde se taisait un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait pas beaucoup de grèves. J'ai pas grève de grève. Vous êtes un foyer, vous? Moi, ça me rappelle une histoire. Là, je porte la grande cour, je vois comme ça, au centre du bâtiment. Et un jour, elle était dans la cour, en récré, l'après-midi, et les Allemands sont venus. Il y a le bureau du directeur et le bureau du surveillant général, qui était un peu du côté de l'entrée, mais c'est plus de la même façon. Et tous les élèves qui étaient là s'est mis à crier là-dedans à la cour. Le surveillant général, qui était un type qui était en brosse, est venu, tenez-vous, voilà, effectivement, les Allemands étaient là, et les Allemands commençaient à dresser les oreilles, dans la cour, donc, droit de grève pendant la guerre, je pense pas, pas de grève. Pouvez-vous être en arrêt maladie et être payé? Oui, alors, il y avait deux sortes d'aides. Quand elle était malade, je crois que c'était moitié ou un tiers du salaire, qui était payé par la caisse, à l'époque, il y avait une caisse, c'était pas la sécurité sociale, à l'époque, c'était une caisse mutuelle, hein, qui devait payer la moitié ou les deux tiers, je ne sais plus. Et quand on était blessé, là, c'était la même chose, mais le salaire, la partie de salaire payée était plus importante, elle devait être de deux tiers ou de trois quarts pendant l'arrêt de maladie. Ce qui faisait que j'ai connu, pendant la guerre en particulier, des gens qui avaient une petite blessure, mais qui s'arrangeait pour qu'elle dure, la blessure. Ça existait, ça, macadam, c'est ça, macadam. Ça existait, moi j'en ai connu personnellement des gens comme ça. Les congés payés, on doit avoir droit à deux semaines depuis les grèves, depuis le 1936 ont été créés les congés payés, on avait deux semaines de congés. Alors, donc la première partie, où étiez-vous logé? Chez mes parents au début, je suis entré à l'école des mines en 47, donc de 39 à 47, j'ai joué mes parents. Quand je suis revenu de Lorraine, un an à peu près, je restais chez mes parents, puis je me suis marié, donc après j'ai vécu. Moi j'ai été à l'époque, peu de temps après, muté à Roche-le-Maurier, j'étais donc logé par la mine, dans une maison, après je suis venu à Saint-Étienne, quand j'étais avec Camarie, j'étais muté près du cimetière Montmartre, une maison d'un parc, bien comme il faut. Bon, justement, cette proximité avec les autres mineurs devait tisser des liens forts, partagez-vous des activités avec eux pendant la mine. Alors, un peu exceptionnellement, je dirais que non, j'ai tissé des gens qui travaillaient avec moi, soit des gens de maîtrise, soit des ingénieurs, on s'en rencontrait beaucoup, mais j'ai pas fait partie de beaucoup d'activités avec beaucoup de mineurs, on allait dans le jeu de boules, à Sarbacane, ainsi. Pourquoi? Parce que comme j'avais pas fait d'études pendant tout le temps, le temps de ma jeunesse, je suis entré à l'école des mines, j'avais 22 ans, j'ai passé mon temps à 4 ans à la mine et à faire les études que j'avais pas faites avant.
Vous viviez avec d'autres mineurs à côté, en comme voisin.
Ah, mais quand j'habitais à Roche, j'habitais dans une cité, Roche-la-Molière. Oui, enfin, à côté de moi, il y a le chef d'atelier qui était là. C'était pas tellement, enfin, c'était plutôt avec des collègues de travail. À Roche-la-Molière, c'était ça, quand il y avait on s'est beaucoup fréquenté d'autres agents de maîtrise, et plus tard, les ingénieurs. Mais enfin, je faisais pas partie de groupements, je vous dis, de jardinier ou de. Où étiez-vous logé? Donc, par les Houillères, dans une cité, et ensuite, ça s'est été avec l'ingénieur, je suis resté là, dans un parc. C'est là qu'on voit la différence de traitement entre l'ouvrier et l'ingénieur. Je vais te faire une petite anecdote, je raconte, quand j'étais gamin, que j'étais au jour, là, mon second métier au jour, ça a été de boucher les trous dans les wagons avec la paille. Boucher les trous dans les wagons, parce qu'on était le charbon fin, pour pas que le charbon s'en aille. Et je me rappelle, le directeur de la mine, c'était en 40, ça, donc, en 40, le directeur de la mine, ça arrivait à l'après-midi, il jouait avec son beau chapeau, sur l'écharpe blanche, il arrivait avec son chauffeur dans sa voiture. Et, un jour, j'étais à sa place, mais beaucoup plus tard. Bon, où étiez-vous logé? Bon, la vie de famille et le travail à la mine sont-ils compatibles? Je dirais qu'il est plus compatible quand on est ouvrier que quand on est responsable. Parce que je crois que le temps de ma maîtrise, j'ai dû travailler à peu près 9 ou 10 heures par jour, et quand j'étais ingénieur, autant, à peu près 10 heures par jour. Je partais le matin à 7h, surtout quand j'étais responsable de Corio, je passais ici à Corio, ensuite j'allais à Roche, j'étais à mon bureau à la Ricamarie. Mais la vie de famille en souffrait, je ne pense pas que ce soit moi qui me soit occupé beaucoup de l'éducation de mes enfants, donc ma femme ne travaillait pas, c'est elle qui s'en occupait. Ce qui est différent maintenant. Hein. Bon, les conséquences d'un passé mineur. Une santé mise à la rude épreuve. Alors oui, là je reconnais que effectivement à l'époque, on ne prenait pas beaucoup de précautions pour la santé. Et je cite encore un gars qui est rentré en même temps que moi à la mine, qui a fait à peu près le même travail que moi à la mine. À 35 ans, il a été enlevé du fond parce qu'il avait de la silicose. C'est curieux, il y avait des tempéraments, des constitutions de corps qui faisaient que des gens étaient, il y en a qui étaient beaucoup plus, qui étaient plus facilement exposés à la poussière, donc contaminés, et qui devaient quitter la mine. J'ai eu cette chance, moi, on me dit que j'ai des poumons poussiéreux, mais enfin, j'ai pas de poussière vraiment. Et j'ai été blessé qu'une fois, j'ai me cassé la mine, pendant que j'étais à la maîtrise d'ailleurs, ce qui m'a valu 50 jours d'arrêt. Bon. La retraite des mineurs est-elle convenable? Moi, je citais deux cas. Mon père était ingénieur maîtrise, donc j'ai connu mon père. Il pouvait vivre correctement. En tant qu'ingénieur, c'est beaucoup mieux, parce qu'on était mieux, plus payé. Et les ouvriers, je pense que les ouvriers ont tous, en plus de la retraite, je ne sais pas si je vous l'explique en deux mots, comment est calculée la retraite. On se bagarre beaucoup actuellement pour les 40 ans. La retraite mineure, la retraite de base mineure, ce qui correspond à la sécurité sociale, c'est calculé de façon suivante. Qu'on soit ouvrier ou ingénieur, c'est le même calcul et le même taux. Autrement dit, on compte les trimestres de travail. On ne compte pas les années, on compte les trimestres. Et chaque trimestre a une valeur. Hein, c'est intéressant, je prends. Vous avez un trimestre, il vaut tant. À la retraite, il vaut tant, que ce soit ingénieur, peu importe. Et on multiplie par le nombre de trimestres. Hein? Genre donc, normalement, la retraite du mineur, les mineurs à l'époque commençaient comme moi à 15 ans. Hein? Donc, la retraite à l'époque, c'était 50 ans pour le jour, pour le fond, pardon, et 55 ans pour le jour. Donc, entre 15 et 50, on a bien le temps de faire le nombre de trimestres. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, comme j'ai travaillé de 15 ans, mettons, à 60 ans, j'ai donc 45 années de mine, ce qui me faisait 181 trimestres, que j'avais fait avant 39. Mais comme ce n'était pas prévu dans le statut que le mineur allait tant, on m'en paye moins que 160. Pourquoi? Vous direz, mais il y en avait d'autres qui étaient des ingénieurs. Mais les ingénieurs à l'époque, ils rentraient à la sortie de l'école des mines, donc ils rentraient à 20 ans. Donc, on me les a supprimés, mais non pas parce que j'avais cotisé entre 55 et 60, en ayant mon nombre de trimestres, ce qui n'était pas normal. Donc, voilà la retraite. À côté de ça, il y a eu depuis des retraites complémentaires, aussi bien pour les ouvriers, avec ce qu'on appelle la caisse LARCO, et les ingénieurs, une caisse s'appelle l'AGIRC, donc c'est des retraites complémentaires. Mais je pense qu'un ouvrier, après la nationalisation et la création de la sécurité sociale minière, un ouvrier peut vivre. J'ai des parents, mes cousins en particulier, qui Gilles, bien, sa femme n'a pas travaillé non plus, parce que les femmes mineures, c'était, on disait souvent femmes de mineurs, femmes de seigneurs, ce qui n'était pas toujours vrai. Enfin, les femmes ne travaillaient pas en général, donc les mineurs vivaient avec le salaire du mineur lui-même. La retraite du mineur était comme, oui, l'activité étant terminée, qui la finance? C'est le gouvernement qui finance, sauf les caisses complémentaires, parce qu'on a versé une caisse complémentaire, qui s'appelle le groupe Malakoff, et eux, ils versent en fonction des autres cotisants. Or, comme cette caisse ne comprenait pas que des mineurs, des gens d'industrie, donc elle est toujours alimentée. Alors que la caisse de la mine, dans une réunion hier avec le directeur de la sécurité minière, qui s'appelle la CARMI maintenant, il disait qu'il y a encore 3 000 ou 4 000 dans la Loire, 3 ou 4 000 ayant droit. Ayant droit, c'est quoi? C'est des mineurs, des femmes de mineurs, des enfants de mineurs. Mais tout ça, c'est financé directement par les... Ça transite par la sécurité générale, et ça vient du gouvernement qui paye, puisqu'il n'y a pas de mineurs. Alors, avez-vous un statut spécial en tant qu'ancien mineur? On n'a pas de statut spécial. On a un statut ici en tant que... Enfin, un certain groupement des amis du musée de la mine, on se retrouve un certain nombre. Mais non, il n'y a pas de statut spécial. Et ce que vous voyez les anciens collègues, ben, tous les mardis on se réunit, on voit certains collègues, et puis le jour de cette barre, la fête a lieu dans la salle des pendules, il y a 400 ou 500 personnes invitées, dont de moins en moins de mineurs, qui sont comme moi, ils vieillissent et disparaissent. Alors, quels sont les objectifs de l'association, celle-ci, là, donc oui. Ben, c'est normalement de, premièrement, avoir le plaisir de s'en rencontrer, et puis, on a participé, moi en particulier, à la création du musée de la mine, le conservateur l'a eu beaucoup plus tard, puisque le site appartenait encore à la mine, quand on a créé le musée, et ça a traîné un peu, heureusement que ça a traîné pour le créer, parce que le maire de l'époque a voulu créer avant le musée d'art moderne. Donc ça a retardé. Et heureusement, parce qu'on avait prévu à l'époque faire le musée qu'on a visité dans une couche de charbon qui se trouvait à 50 mètres de profondeur. Mais le temps, on a fait des tas de trous de sonde, on a vu devant qu'il n'y avait presque plus de charbon. Et puis, le temps passant, on a vu que l'eau, on pompait 10 mètres cubes d'eau par jour, l'eau est remontée, elle est remontée jusqu'à 10 mètres de la surface. Et moi, je me rappelle, à l'époque, on m'a demandé de faire pomper, on pompait 800 mètres cubes d'eau par jour, là, il n'a pas baissé le niveau.
Puis même dans la mine actuelle,
quoi. Oui, un peu, c'est vrai. Et donc, on a fait le niveau, on a fait la galerie, on a construit une galerie en dessus de la nappe phréatique. Hein, de façon, il arrive qu'il y ait de l'eau quand même, enfin, au-dessus de la nappe phréatique, de façon qu'on a fait à partir du jour, tout ce que vous avez vu a été bâti, équipé à 20h du jour. Alors, on se rend compte, et puis moi je rencontre beaucoup d'anciens collègues, puis je rencontre beaucoup de gens, parfois les enfants des gens qui ont travaillé à la mine, qui viennent nous voir, je rencontre beaucoup de mineurs. Je ne peux pas aller quand je vais à la pharmacie de la mine, je vais toujours aller avec un mari, ben, je rencontre des gens qui me reconnaissent, moi j'en ai connu des milliers en tant que agent de maîtrise ou ingénieur, et je rencontre quelques jours, mercredi, c'était lundi, je suis à la caisse, avec des gens qui m'ont reconnu, que je n'avais pas eu depuis longtemps. Bien, est-ce que vous, les anciens collègues, en vous, messieurs, quels sont les objectifs de l'association? Je vous l'ai dit, c'est d'aider, alors j'en reviens au musée, on a créé le mineur, le musée de la mine, hein. À l'époque, essentiellement des mineurs, puis beaucoup sont partis, beaucoup sont morts d'ailleurs depuis, et on continue dans la mesure où on peut à aider au fonctionnement du musée, c'est pour ça que vous voyez devant vous aujourd'hui, à aider et renseigner. Moi, je viens souvent pour répondre à des classes de primaire sur ce qui est un métier de mineur. Êtes-vous conscient que votre santé est... Ah ben ça, il est mis à rude épreuve. Ça c'est vrai, quand j'étais gamin, donc en 1940, j'étais dans une mine, dans un quartier où c'était l'air comprimé, donc à l'époque, il y avait deux engins, c'était un chantier d'abattage, il y avait deux engins qui roulaient dans ce sens-là, l'autre celui-là, des versets ici, et il y avait donc les piqueurs qui abattaient un jour cette partie, leurs mains l'autre partie. Et moi j'étais entre les deux, je conduis la tête motrice, je tournais le van, j'ai marché le moteur. Et le courant d'air, il y a le courant d'air qui remontait comme ça, le courant d'air venait en général à l'inverse du sens des produits. Et cet endroit où on abattait le charbon, c'était en seconde tranche. C'est-à-dire qu'on prenait une première tranche, puis on prenait une deuxième. Et entre les deux, il fallait que ce soit un peu tassé. Et alors quand les piqueurs, comme c'était la seconde tranche, la première avait été, je pense, on laisse tomber le toit, et donc c'est du rocher, et quand le piqueur travaillait, s'il a malheur de ne pas pouvoir tenir dessus, que l'égoulement se faisait, c'était de la poussière blanche qui circulait, c'est pourquoi il y avait tant de gens qui avaient la fameuse maladie de silicose. Moi je me rappelle, quand j'étais là, il arrivait des moments où on ne se voyait pas à quelques mètres, tellement il y avait la poussière. Enfin, Dieu merci. J'ai résisté jusque-là.
Et les coups de poussière, ça...
Alors, le coup de poussière, c'est pas que celle-ci poussière. Le coup de poussière, c'est...
C'est dur.
Ouais, on parlait longtemps. Vous savez que la plus grande catastrophe minière française...
C'est 1099 morts.
Voilà. Quelle année
Je ne sais plus, je suis ici, mais je ne sais plus.
1906, ouais. À Courrières dans le Nord. Ouais. Hein. Donc, il y a eu une grande catastrophe, et en fait, qui a ravagé des kilomètres et des kilomètres d'aiguilleries, et des plusieurs puits, ça a ravagé. Alors qu'à l'origine, à la mine, à l'époque, et même au début, quand je disais là, on s'en souciait pas beaucoup, quand on fait de l'abattage de charbon, je me rappelle être allé en Angleterre, à l'époque, ils nous montraient dans les études de poussière, ils nous montraient que quoi qu'on fasse, on prend un morceau de charbon, on y tape dessus, il y a forcément de la poussière, il n'y a pas que des blocs. Donc la poussière, du fait qu'on abat du charbon, on crée de la poussière. Et cette poussière, elle est entraînée par la ventilation. Vous savez que dans la mine, même à Courriot, le plus gros tonnage qu'on manipule, c'est pas le charbon, ni l'eau, c'est l'air. Le tonnage de l'air. Bon, alors, cette poussière se dépose dans les galeries, et comme elle est ensuite personnelle, se dépose, et à l'époque, effectivement, on ne faisait pas très attention, en particulier au début du siècle, c'est à partir de là qu'on a commencé à en prendre conscience, au début du siècle, la poussière se dépose, et cette poussière est inoffensive, je ne la touche pas. Mais si par contre, et c'était le cas à Courrières, et c'était le cas à l'Arrache-Molière, je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'y suis allé, cette poussière, il suffit qu'il y ait une petite explosion, il y a un peu de grisou, là, le grisou est léger, il est en haut, il suffit qu'il y ait une petite explosion pour une raison quelconque. Bien souvent d'ailleurs, c'était un tir explosif mal préparé qui a allumé le grisou, paf, une explosion. Je ne sais pas si vous avez chez vous une cuisinière, quand on ouvre l'allumage, quelquefois on entend pouf, hein, ça, c'est une petite explosion, c'est le même principe, c'est le même gaz d'ailleurs, et cette explosion peut être plus ou moins forte, et l'onde de choc, la poussière de l'explosion des grisous soulève la poussière dans la galerie, qui elle, à son tour, se comporte exactement comme un gaz. C'est-à-dire qu'elle explose la poussière. C'est d'ailleurs le principe qui est utilisé encore dans les centrales thermiques au charbon. Les centrales thermiques au charbon, comment elles fonctionnent? On ne met pas le charbon à la pelle dans une chaudière. On pulvérise le charbon très fin et on injecte comme un brûleur de... Parce que vous savez, un brûleur à gaz, quand dans une chaudière, on a un brûleur à gaz, on injecte la poussière de la même façon, et on l'enflamme au départ avec du gaz de ville ou du pétrole, et après, on injecte la poussière comme ça, ça fait une grande flamme dans une grande chambre où il y a des tuyaux qui captent la chaleur. Et bien la poussière, dans un coup de poussière, se comporte comme ça, c'est-à-dire que coup de grisou, soulèvement de poussière, explosion de poussière, soulèvement de poussière, ah, explosion, ainsi de suite, et ça progresse en prenant de l'ampleur, parce que le nombre de chocs ne va pas en diminuant, elle s'amplifie, et comme ça, toute Courrières a été ravagée sur des kilomètres et des kilomètres, comme ça, hein, par un coup de poussière. Donc les gens disent souvent, c'est qu'en Russie, pas en Russie, en Chine, il y a actuellement 10 à 20 000 morts, on ne dit pas ça. On sait que la Chine exploite actuellement 2 milliards de tonnes par an. On dit qu'en Chine actuellement, on crée une centrale au charbon toutes les semaines en Chine. Hein? Donc ils ont quelque chose pour injecter de CO2 dans l'atmosphère. Bon, mais en Chine, ils ont énormément de morts, parce que si nous en France et en Europe en particulier, on a fait des tas de progrès pour lutter contre les poussières et le grisou, les Chinois ne sont pas encore là. Alors, malheureusement, il y a pas très longtemps, il y a eu un autre coup de poussière comme ça en Russie. Alors, on parle souvent de coup de grisou. Effectivement, c'est un coup de grisou à l'origine. Mais le grand mal, enfin, la conséquence la plus grave, c'est le coup de poussière qui suit.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait après le coup de poussière du Nord là, on a créé ce qu'on a appelé des arrêts barrages. Il y a un truc qui s'appelait Tafanel. Tafanel, c'est un bonhomme qui a eu l'idée de dire, ben oui, mais pour pas que ça se passe de là à là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a installé entre les deux, on a mis ici dans la galerie, on a mis en suspension dans la galerie des planches en équilibre presque instable avec de la poussière stérile dessus. Et c'est en cas de choc, les poussières s'inversent. Et ça, là, vous ne l'avez peut-être pas vu au fond, mais quand on arrive, on commence à voir le point de chargement. On voit au contraire des caisses en polystyrène expansé, je ne sais pas si vous n'êtes pas vu, à la couronne de la galerie. Alors, on a remplacé plus tard, c'est un peu trop haut, hein, mais on a remplacé plus tard la poussière par de l'eau. Alors, c'est du polystyrène expansé, donc très fragile. Une onde de choc brise, c'est la quantité d'eau qui arrête la flamme. C'est-à-dire, très bien, très calculé, c'est que les houillères avaient un centre de recherche, qu'on appelle Cherchard, un centre de recherche des Chambres de France, près de Paris, et tout ça était éprouvé, suivant l'expérience grandeur nature, et on savait qu'il fallait dans une galerie 400 litres d'eau au mètre carré, hein, 400 litres, sur les galeries qui font 16 mètres carrés, multiplié 7 par 400, regardez, la quantité d'eau, donc la quantité de basse qu'il fallait mettre pour arriver arrêter le flamme. Donc le coup de grisou, le coup de poussière, voilà ce que c'est. Donc et à la Varenne, donc j'en reviens, le dernier coup de poussière, grisou poussière ici, au Puy-Charles. Alors, quel moyen avait-on pour lutter contre le grisou et la poussière? La poussière, donc, le meilleur moyen, c'est qu'il y en ait le moins possible. Autrement dit, qu'on injecte dans le charbon de l'eau, de façon qu'à prendre là-bas, il y ait moins de poussière possible. Ensuite, près des chantiers, on arrosait, il y avait un type qui était spécialement prévu pour ça, arroser constamment. Malheureusement, l'arrosage, compte tenu de la température qu'il y avait au fond, ça tenait pas longtemps, on arrosait la galerie en permanence, et puis beaucoup plus loin, dans les grandes galeries, on schistifiait. C'est-à-dire que, avec une pompe, on répandait de la poussière blanche, de la poussière stérile, pour neutraliser les poussières, c'est-à-dire les rendre incombustibles. On mélangeait, on lavait la galerie avant, et puis on injectait cette poussière. On préparait cette poussière avec une pompe partout. Les Américains, ils font même mieux, ils en mettent par terre. Quand on passe, on s'en fout plein la figure, parce qu'on marche dans la poussière. Là, cette poussière mélangée, poussière charbon, on rend la poussière stérile, donc l'exposition ne peut pas se propager. En plus, dans les quartiers, on met ces arrêts-barrages pour limiter, on tronçonne le quartier comme ça, donc pour qu'il n'y ait pas l'exposition ne puisse pas se propager. Et puis, même les dernières années, depuis Pigeot, ce blanchiment dont je vous parle, on l'amenait le dimanche, on blanchissait presque jusqu'au chantier d'abattage qui progressait tous les jours. Et quand les grisous, c'était un gros problème, parce que les grisous, on s'est rendu compte très tard aussi, et je reviens dans les années 55-60, on s'est rendu compte à l'époque que les grisous ne se comportaient pas comme on le pensait. Parce que il y a un règlement général des mines qui dit que, surtout dans la pas flamme, le mineur doit deux fois par poste contrôler la pluie en grisou dans son chantier. Alors on s'est rendu compte, il y a eu un coup de grisou, je ne sais plus quelle fosse dans le nord, dans les années, je crois. Alors on a fait le rapprochement à l'époque avec il y avait déjà des mines qui en pètent avec une très forte dépression atmosphérique qui à l'époque. Crise conduite. Et on s'est rendu compte, on a mis à ce moment-là à la mine, et moi, dans l'empistrie, il y en avait un, on a mis un baromètre, et on s'est rendu compte que le jour où le baromètre baissait, la pression atmosphérique qui baissait, ben, il y avait plus de grisou dans la mine. Et pourquoi? Un raisonnement physique simple, hein, pression multipliée par volume égale constante. Hein, c'est une formule. Alors, si la pression baisse, le volume augmente, et qu'est-ce que c'est que le volume? Quand on fait progresser un chantier, on fait progresser ce qu'on appelle chassant. C'est-à-dire qu'on trace les galeries là, et puis on met là ce qu'on appelle la taille, que vous avez vu avec les piles sur le marchand, et on rabat comme ça. Donc l'aérage se passe ici, comme ça, et il va plus se balader là-dedans. Si bien que là-dedans, il y a des résoudres importantes, et donc un réservoir de grisou. Et le jour où le baromètre baisse, ce volume de grisou qu'il a, la pression baisse, le volume augmente, il déborde ici et il vient inonder les chantiers. Et c'est pour ça qu'on a eu des. Donc on s'est rendu compte beaucoup plus tard que le volume. Il ne varie pas d'une demi-journée, ce que je vais faire deux fois par poste. Il varie d'une minute, enfin, j'allais dire de 10 secondes, de quelques secondes, à quelques secondes, la teneur varie. Hein, suivant qu'il y a le baromètre, il y a un petit à coup, paf, une dégagement de grisou. Alors qu'est-ce qu'on faisait les dernières années on, au fond, c'est installé, on ne voit pas. Près des champs, pour pouvoir marcher, le matériel anti-grisouteux qu'on utilisait, il était fait pour normalement résister, mais on dirait aux teneurs de grisou, mais on ne prenait pas le risque de faire fonctionner des teneurs explosives. Le grisou explose, c'est pas ce qui l'intéresse, mais enfin je vous dis quand même, le grisou explose entre 6 et 16% de l'atmosphère. La teneur idéale est en 9%. Mais la mine, on prend des précautions, on n'attend pas 6%, à 2% on évacue les chantiers. Donc bien en dessous, trois fois avant le seuil possible d'explosion. Donc on mettait sur le moteur, la mine, un détecteur de grisou qui faisait une mesure, c'est encore plus précis, toutes les 15 secondes, l'appareil mesurait les teneurs en grisou, et lui-même, cet appareil, qui s'appelait un grisomètre multifonction, il provoquait la coupure de courant sur tout le secteur, si et en même temps, au jour, on indiquait au jour les teneurs. Oui, on était, parce que les Chinois n'ont pas, bien sûr, et c'est ce qui fait qu'il y a tant d'ennuis, tant d'accidents. Bon, je vais peut-être être au-delà de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas.
Non. Si peut-être un peu revenir sur les syndicats, puisqu'on en parle.
Oui.
Donc, au début de la mine, il n'existait pas les syndicats.
C'est vrai que la mine a été très tôt, en particulier dans la Loire, a été très tôt un pays de syndicalistes. Vous avez entendu parler de Michel Rondet.
Oui.
Michel Rondet qui était. Le pauvre, mal fini sa carrière, mais il a été un des principaux des grèves. Vous avez peut-être entendu parler de la fusillade de la tranchée du. J'avais plus à côté la tranchée du Brûlé, ça s'appelait. Là où, finalement, les grévistes partaient, c'était en 1869. La troupe emmenait les grévistes à Saint-Étienne, à la prison de Saint-Étienne, et la foule étant là, la troupe est intervenue, et il y a eu 6 morts, donc une femme avec son bébé dans les bras. Voilà, c'est l'histoire. Mais il y a eu des syndicats, et Michel Rondet a été un des premiers dans la Loire, en 1860 et quelques, à créer un syndicat, et à créer en même temps, d'ailleurs, la sécurité, la première, elle existe dans deux endroits, mais il a créé ici la première caisse de secours mutuel, donc où on versait de l'argent, où le mineur versait et la mine versait pour créer une caisse qui permettait justement, en cas d'accident mortel ou d'accident, de payer les mineurs ou de payer les veuves. Donc les syndicats diront, je ne sais pas, je l'ai su, mais je ne sais plus. En quelle année on a créé les syndicats le gars, je l'ai traversé, ça a venu, il a pu vous le dire. Mais. Donc les syndicats existent depuis très longtemps et sont toujours très actifs. Ce qui fait qu'il y avait un nombre de syndicats, on avait donc la CGT, la CFDT, la CFTC, FO, et puis le syndicat CGC, ingénieur ou agent de maîtrise, donc syndicat. Je dis ça parce que c'est important, parce que plus tard on a créé les comités d'entreprise, et quand un comité d'entreprise se réunissait, on avait l'effectif du fonds était peu nombreux à l'époque, et il y a presque le jour de la réunion du comité d'entreprise, il y avait presque autant de gens autour de la table qu'il y en avait au fond. Chaque syndicat est représenté par une ou deux personnes.
Et aussi, un dernier point sur les flux migratoires, donc il y avait beaucoup de Polonais et d'Italiens.
Oh, bon sang.
D'accord, merci.
Je vais vous dire ça si je l'ai rapporté. Si j'ai rapporté ça, le comité métallique, c'est pas. Je pourrais leur donner des photocopies, mais. On est en train de préparer une exposition sur la mine. Hein, le titre de l'exposition, c'est Charbon et les hommes. Donc, ça sera ouvert par le 1er avril prochain. Il y en a qui ont fait une définition sur le rôle du gouverneur. Le gouverneur, c'est le patron du quartier, le rôle de l'ingénieur. J'en ai fait, sur. C'est pas dans mes documents. Il y a un gars qui a fait un truc sur les lèvres. Ouais, voilà, pensé, c'est pas pensé. Qui a fait un organigramme du bassin à l'époque en 1956, et dans sur cet organigramme, il a mis le pourcentage de personnages. Ce qui, j'en retiens un chiffre, j'en retiens. Il y avait, dans toutes les années, il y avait, je crois, 22% de Nord-Africains, c'est un chiffre qui m'a frappé, et dans les Belges, il y en avait un. Donc, je ne l'ai pas. J'en ai un, mais je ne l'ai pas apporté. J'ai mis un. Si, c'est vrai. C'est ça. L'organigramme. Alors, je veux dire, ça se passe en 1956, hein, 1er janvier 1956. À l'époque, dans la Bretagne, le bassin, il y avait 15 569 personnes. Il y avait 88% d'ouvriers, 7,56% d'agents de maîtrise, fonds et jours, 3,34 d'employés dans les bureaux et 0,94 d'ingénieurs fonds et jours. Ce qui fait que des Français de la métropole, il y en avait, mais c'est pas les chiffres, il y avait 77% de Français, des Algériens, 8 et 4,12. Il y a 8% d'Algériens, 4% de Tunisiens. Il y avait à l'époque en 56, il sait qu'après la guerre, il y a pas mal de prisonniers allemands qui sont restés dans notre association qui se met là d'ailleurs. Il y a un ancien prisonnier de guerre allemand, qui est camarade d'ailleurs, et qui est resté parce qu'il s'est marié là. Bon, il est resté en France. Donc il y a les Allemands, il y en a 0,20%, les Polonais 4,58%, les Italiens 3,60%, les Espagnols 1,87%, les Russes 0,01%, les Yougoslaves 0,15%, et puis des divers autres, sur 15 590 personnes.
D'accord.
Alors voilà comment a été organisé. Hein. Je ne sais pas si ça me fait pas, on va prendre la photocopie.
Merci. Mais ce sera possible en faire photocopie.
Alors par exemple, le gars qui a écrit ça, là, c'est bien d'ailleurs, il a écrit le rôle du gouverneur et le rôle de l'ingénieur. Et il se trouve que c'est un de mes jeunes ingénieurs que j'avais quand j'étais à Pigeon. Il a exactement 20 ans de moins que moi, et maintenant il est à la retraite aussi. Et il siège à côté de moi à la Réunion. Il a écrit sur l'ingénieur du fond, sur le gouverneur du fond. Et moi j'ai écrit à l'époque, qu'est-ce que j'en ai, voilà. Ça c'est l'agent d'aérage. Ce que fait, dans la mine, il y avait un ouvrier qui s'occupait de l'aérage. Ça, c'était l'électromécanicien. C'est moi qui ai écrit ça sur l'électromécanicien. L'organigramme de l'électromécanicien. Ça, c'était le métier de quoi, lampiste, du chef lampiste. C'est pas des choses que j'ai appris.
C'est quand même bien spécialisé. Donc,
qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voudriez, ça, ce truc-là?
Oui, c'est intéressant pour notre fin.
Si vous voulez, on va voir. Si on peut tirer, ça c'est peut-être plus facile, le rôle de l'ingénieur du fond, parce que c'est l'ingénieur du fond, et ce que vous êtes gouverneur, c'est les deux principaux postes dans votre commandement de la mine. Allez-y, si vous avez d'autres questions.
Non, vous avez dit non. Merci. Merci bien.
Avec plaisir, toujours avec plaisir pour l'ancien ministre de la mine. Vous laissez une petite question là, ou je vous la voulais?
Non, allez-y.
Je permets parfois de. Quand il y en a qui ne préparent pas de questionnaire, ils sont un peu là, sans pouvoir poser des questions. Ça permet parfois de dire, ben voilà, ce qu'ils veulent savoir.
Si vous voulez garder le plan,
ouais, allez, d'accord. Très bien. Et bien, vous avez enregistré le truc, ça a marché?
Oui.